Alors, joie de vous retrouver. Donc, nous arrivons à la troisième journée de neuvaine qui correspond avec l'entrée dans l'Avent. Donc, cet Avent qui est ce temps où on prépare notre cœur à accueillir le Seigneur, à accueillir le Sauveur. Et ce qu'on va aborder cette fois-ci, précisément, nous donnera de comprendre pourquoi on a besoin d'un Sauveur. Vous vous rappelez, hier et avant-hier, on a plongé dans le mystère de la création. Création à l'image de Dieu, création dans la communion trinitaire. Notre être est créé dans la communion, il est fait pour la communion. C'est une communion qui se réalise à travers la relation homme-femme. Et nous avions terminé avec ce très beau passage. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Comment entendre cette nudité? Il s'agit d'un rapport libre au corps, au sens où notre corps est le résumé de notre histoire. Et dans la relation à l'autre, dans une relation qui est une relation de communion, eh bien, il nous est donné d'assumer librement ce corps, de ne pas avoir honte. La honte, elle apparaîtra après le péché. Après le péché qui inscrit une rupture dans notre relation à Dieu, mais aussi une rupture dans notre relation à nous-mêmes. Et donc le rapport au corps devient un peu plus compliqué. C'est ce qu'on va aborder cette fois-ci. Alors, chapitre 3, verset 1, ça commence à se gâter. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Alors le serpent figure le tentateur. Il est assez intéressant de voir comment la tentation s'exprime. Est-ce que vous vous rappelez du commandement que Dieu avait donné à l'homme et à la femme après les avoir créés? Tu peux manger de tous les arbres, mais de l'arbre du jardin, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. D'accord ? Donc le don est d'abord positif. Et puis il y a un interdit qui correspond au fait de ne pas expérimenter le mal. On n'est pas fait pour le mal. On est créé bon, on est fait pour la bonté. Et quand on expérimente le mal, on s'abîme et on est sur un chemin de mort. Alors que dit le serpent ? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Donc il enferme le don dans l'interdit. Il enferme le don dans la négation. Ça, c'est assez typique de la tentation. La tentation, elle se présente à nous comme un interdit inaccessible, en fait, mais qui du coup nous tente beaucoup. D'accord ? Donc, c'est par exemple le coup du gâteau au chocolat. Vous savez, le gâteau au chocolat pendant le carême dans le frigidaire, le gâteau au chocolat qui restait du dimanche, ce très bon gâteau au chocolat. On est lundi de carême. Vous avez pris comme résolution de ne pas manger ce gâteau pendant le carême parce que l'aspect du jeûne peut avoir peut-être un chemin de purification pour accueillir la grâce de la rédemption. Et donc, voilà, vous avez pris cette résolution et puis tout à coup, il y a une pensée qui vous traverse de ce gâteau qui est dans le frigo. Puis cette pensée, elle devient de plus en plus présente. Et puis l'impression de ne pas pouvoir avoir accès à ce gâteau vous donne l'impression de ne plus avoir accès à rien. Vous voyez, c'est ce qui devient central dans votre vie, c'est ce gâteau au chocolat. Ça peut être la même chose pour la cigarette, pour le téléphone quand il ne marche plus, etc., etc. Vous savez, on peut être pris par quelque chose auquel on n'a pas accès. Donc ça, c'est la tentation. Alors, la femme répond, elle répond plus ou moins bien, c'est ce qu'on va voir. Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Alors, c'est un passage qu'on n'a pas vu, mais qu'on va aborder maintenant. L'arbre qui était au milieu du jardin, c'était l'arbre de vie. Au milieu, il y a la source de vie, comme au milieu de notre cœur, il y a la source de vie. Eh bien, au milieu du jardin, il y a une source de vie. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'elle répond au serpent, lorsqu'elle entre quelque peu dans la tentation, eh bien, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'était pas au milieu, en tout cas, ce n'était pas ce qui était dit, devient central. Il devient un lieu à partir duquel elle se focalise. Elle est vraiment focalisée par cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, elle dit qu'il est au milieu du jardin. Alors, elle dit qu'elle ne peut pas en manger et puis qu'elle ne peut pas y toucher. Alors, le Seigneur n'avait pas dit qu'elle ne pouvait pas y toucher. Donc, elle essaie de se protéger, elle exagère. Mais en dialoguant avec le tentateur, petit à petit, en fait, elle se décentre de la vérité. Elle se décentre de sa relation au Créateur. Alors, le serpent reprend. Il essaye de la séduire. Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors, quand le tentateur se présente, il dit pas tout à fait la vérité, mais il dit pas tout à fait ce qui est faux non plus. Donc, juste assez que pour nous séduire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas dit « vous serez comme Dieu ». Il est dit « vous serez comme des dieux ». Vous savez, des dieux au pluriel, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et en ce sens, il n'a pas tout à fait tort. Quand on se sépare de Dieu, quand on désobéit au commandement, quand on fait l'expérience du mal, d'accord, on perd le sens de notre unité. Il y a comme un abîme qui s'inscrit en nous, et donc notre âme et notre corps devient à nos yeux comme des dieux. On peut idolâtrer notre intelligence, par exemple. On peut idolâtrer notre volonté. On peut idolâtrer notre sensibilité. Donc, le comme des dieux apparaît effectivement lorsque on se sépare du Créateur, lorsqu'on n'est plus relié à celui qui est au principe de l'unité de notre âme et de notre corps. Plus on est en relation avec Dieu, plus on est sur un chemin d'unification. Plus on se sépare, plus on est sur un chemin de division, et donc plus on est centré sur les différents aspects de notre humanité, et donc on a du mal à les unifier. Alors vous connaissez la suite, la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de cet arbre et en mangea. Alors qu'est-ce qui arrive ensuite? Elle en donne aussi à son mari. Et quel est le premier effet? Quel est le premier effet du péché? Leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient nus et ils vont se cacher. Ça correspond à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est dans notre relation à Dieu qu'on peut s'assumer tel qu'on est. Éloigné de Dieu, il y a toujours une part de nous-mêmes, et en général c'est la part corporelle et plus précisément génitale qu'on n'arrive plus à assumer. La génitalité qui dit notre sexualité, en fait le fait d'être homme et le fait d'être femme, ce fait d'être homme et d'être femme qui est inscrit au plus profond de nous, eh bien on n'arrive plus à l'assumer. Donc l'homme et la femme vont se cacher de Dieu, ils vont se cacher d'eux-mêmes, donc ils ne vont plus avoir accès entièrement à ce qu'ils sont, et puis ils vont se cacher de l'autre. Quand on a perdu la relation à Dieu, l'altérité, ce qui est autre, n'est plus lisible. L'altérité devient une différence qui dérange. On connaît bien ça dans notre vie. La différence peut se présenter à nous comme quelque chose de dérangeant, parce qu'on ne l'aborde pas comme une richesse. Et donc là, après le péché, c'est vraiment le cas. Donc on va se protéger de l'autre. Et puis, ils vont se cacher. Ils vont se cacher parmi, donc c'est ce que le texte nous raconte dans la suite, parmi les arbustes, ce qui est assez étonnant. Comme s'ils n'arrivaient plus à se distinguer des plantes, des animaux, et ils pensent que Dieu ne va pas les trouver. C'est tout à fait curieux ça. Alors ce qui est écrit ici est au fond très actuel. Nous sommes dans une société qu'on pourrait qualifier de post-athée. On n'est plus dans une société marquée par l'athéisme, on est plutôt dans une société marquée par les conséquences de l'athéisme. Ça veut dire une société qui a pris distance avec Dieu. Eh bien, quels sont les phénomènes que l'on voit apparaître dans cette société? C'est assez intéressant. On se pose la question de ce que veut dire être homme, de ce que veut dire être femme. On se pose aussi la question de la différence entre l'être humain, les animaux et les plantes. On parle, il y a des gens qui disent qu'une personne en fin de vie peut être dans un état végétatif, vous voyez, le végétatif qui fait référence à la plante. Et donc, on ne distingue plus la spécificité de l'être humain, ce qui caractérise l'être humain. C'est ce qu'on avait vu hier, cette dimension spirituel, il est animé par cette dimension spirituelle qui est le lieu à partir duquel il est en relation avec Dieu. Cette relation qui lui permet d'être pleinement lui-même, spirituellement, psychologiquement et corporellement. Donc séparé de Dieu, grande confusion. Alors, il y a quand même un miracle dans l'histoire. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Il y a un miracle. Alors ce miracle, c'est quoi? C'est que l'homme ne meurt pas tout de suite. Il avait été dit, si tu manges de cet arbre, tu mourras. En tout cas, la mort n'arrive pas immédiatement. L'homme et la femme se cachent. Et puis vous avez cette parole de Dieu qui est extrêmement belle. Quelle est cette parole de Dieu qu'il prononce après que l'homme ait péché? Adam, où es-tu? Où es-tu? Alors ça, c'est très très beau. Dieu va à la recherche de celui qui s'est perdu. Et en disant « Où es-tu ?», il ne lui dit pas simplement « Tu es paumé ». Ça nous arrive de penser que quand une personne a fait une bêtise, a fait quelque chose de grave, elle est perdue cette personne, elle est paumée, elle est un peu perdue. Quand Dieu dit « Où es-tu ?», ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En fait, il révèle à l'homme qu'il s'est perdu. Et révélant à l'homme qu'il s'est perdu, il va pouvoir renouer un lien, il va pouvoir indiquer à l'homme qu'il faut qu'il se retrouve, Donc le où es-tu est vraiment une expression très belle de la révélation. Alors, où est-ce que dans l'évangile on trouve une réponse à ce où es-tu? Vous connaissez l'évangile selon saint Jean, au moment de la passion, Jésus a été arrêté, il a été maltraité, et puis il y a Pilate qui à un moment donné présente Jésus à la foule en disant « Voici l'homme, qui va nous permettre de retrouver ce que l'on est profondément, le Verbe incarné, le Dieu qui s'unit. » On a besoin d'un Dieu qui nous aime jusqu'à s'unir à nous pour qu'on se retrouve pleinement. Donc c'est dans le Christ qu'on se retrouve pleinement. Alors là, on n'y est pas encore, on y arrivera plus ou moins à la fin de la neuvaine. Là, on va continuer à parcourir le chemin. Donc il y a cette parole « Où es-tu ?» Et alors l'homme répond « J'ai entendu ton pas et j'ai eu peur. J'ai entendu ton pas dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je me suis caché. » Et le Seigneur reprit « Et qui t'a appris que tu étais nu ? Tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger. » Alors l'homme répondit à ce moment-là, vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui se passe quand tu dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Et la femme dira « C'est pas moi, c'est le serpent. » Alors on voit ça souvent chez les enfants, mais pas que chez les enfants. On voit bien qu'on a du mal à assumer les actes qui nous ont perdus. Et c'est pas si étonnant que ça, parce que si ce sont des actes qui fait qu'on s'est perdu, on a du mal à dire « j'ai mal fait ». Parce que le jeu, il est abîmé. Le jeu, il est perdu, il est paumé. Il m'est arrivé d'aller voir des personnes en prison. Et quand on parle un peu de ce qui s'est passé, souvent ils disent « mais je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Voilà. C'est un acte qui dans lequel j'ai été perdu, ce n'était pas moi en fait. Donc on voit comment le mal abîme l'homme et l'abîme de telle manière que le sujet, le jeu, n'arrive plus à s'exprimer. On vit ça parfois quand on va à la confession. Vous savez, la confession, on est amené à confesser notre péché. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais moi ça m'arrive tout le temps de dire, bon écoutez, voilà, je demande pardon pour ça, mais vous comprenez, c'était à cause de ça, ça et ça. Et donc à la place simplement de dire et de se laisser éclairer par la miséricorde de Dieu, pour nous réconcilier, pour retrouver ce jeu, dire « j'ai mal fait », c'est déjà oser croire que le jeu peut assumer ce qu'il a fait de mal. Donc c'est déjà oser croire en la miséricorde de Dieu. C'est par miséricorde qu'on peut dire « j'ai mal fait ». Donc il faudra un peu de temps avant que l'homme puisse dire « j'ai péché ». Donc, c'est la femme, c'est le serpent. Et puis ensuite, il y a toute une série de conséquences que Dieu va révéler à l'homme suite à son péché. Je crois que vous en connaissez, vous connaissez certaines de ces conséquences. Une des conséquences qui concerne l'homme consiste à être marqué par la peine du travail. Donc il s'adresse à l'homme, mais la femme est là, elle entend, et elle est aussi marquée par cette conséquence. Mais ce n'est pas cette conséquence-là qui va la marquer spécifiquement. Là, c'est vraiment ce qui concerne l'homme. Donc il va éprouver de la peine dans le travail. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il va éprouver de la peine dans le travail ? Parce que, à distance de Dieu, le rapport à la terre, le rapport aux animaux, le rapport à la réalité qui l'environne devient compliqué. Donc c'est vrai pour l'homme et la femme, mais c'est vraiment ça, ça concerne l'homme. Il va éprouver de la peine dans son travail. Donc ce n'est pas une punition, c'est la conséquence des actes, de l'acte qu'il a commis, et c'est une conséquence qui lui est révélée. Ça veut dire que le Seigneur accompagne l'homme à travers cela. Alors je vais m'arrêter un peu plus aux conséquences qui concernent la femme. Je vois qu'il y a quand même pas mal de figures féminines parmi nous, hein, donc qui nous concernent particulièrement. Ça va, vous m'entendez malgré... Très bien. C'est beau d'entendre les cloches, là. C'est qui nous donne d'entrer dans cet avant. Donc, en ce qui concerne la femme, c'est très étonnant. Ce qui est écrit, c'est « Je multiplierai », donc Dieu dit « Je multiplierai les peines de tes grossesses ». Alors, en ce qui concerne l'homme, c'est tu connaîtras la peine de ton travail. Donc, tu as fait ça, et voilà la conséquence. Tandis que pour la femme, c'est quand même assez étonnant, c'est « je multiplierai ». Alors, il y a de quoi se poser des sérieuses questions hein, quand on est une femme, hein, pour toutes celles qui ont eu des enfants, même si vous avez eu peut-être accès à la péridurale, ça ne change rien en fait, au fait que le corps, il est quand même éprouvé, hein, pendant cet enfantement. Donc comment comprendre ce « je multiplierai » D'abord, le terme « multiplication », la racine correspond à la fécondité. « Soyez féconds ». Donc ce que Dieu multiplie, c'est la vie. Donc il continue à donner la vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il continue à donner la vie. Alors pourquoi est-ce que la femme va être en difficulté par rapport à ce don de la vie ? Parce que précisément, à distance de Dieu, l'accueil de la vie devient plus compliqué, plus difficile. Et donc, elle va être éprouvée. Hein. C'est pas évident d'accueillir un autre en soi. Et un autre qui grandit jusqu'à être enfanté. Hein. Donc, voilà, ça nous est plus immédiatement co-naturel, ça nous est naturel, mais à distance de Dieu, le rapport à la nature, il est moins évident. Donc ça, c'est la première raison. Hein. Donc le « je multiplierai », en fait, la multiplication dont il est question, c'est d'abord la multiplication de la vie. Donc c'est une très bonne nouvelle. Dieu est fidèle hein, au fait qu'il continue à donner la vie. Et puis il y a une autre explication qui est très belle et qui précisément correspond à cette entrée dans l'avant. Le « je multiplierai », c'est l'engagement de Dieu auprès de la vie humaine. Hein. « Je multiplierai les peines de tes grossesses », ça veut dire que dans tes peines, je suis présent. Et je suis présent de telle manière que cette présence ira jusqu'à l'incarnation. En fait, Dieu s'est fait petit enfant. Et vous savez que la tradition dit que la Vierge Marie n'a pas connu les douleurs de l'accouchement. Elle a connu les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a souffert des souffrances de son fils. Elle les a vécues ô combien avec lui puisque c'était sa propre chair. Donc là, il n'y a pas de doute. Mais en ce qui concerne l'accouchement, hein, pour en revenir à l'Immaculée Conception, elle a été préservée du péché, donc elle était en harmonie avec le Verbe incarné. Ce qui fait qu'elle n'a pas souffert. Donc c'est à la fois une révélation des conséquences de notre péché, et en même temps ce « je multiplierai » est une promesse de vie, de salut, d'accomplissement. Alors la question des douleurs de l'enfantement intervient plusieurs fois dans la Bible. Hein. Vous savez que les générations, hein, ça a du poids dans la Bible. Il y a des livres qui nous racontent l'histoire des générations. Hein. Alors les douleurs de l'enfantement, Saint Jean en parle lorsque Jésus entre dans sa passion. Hein. Il dit, Jésus dit aux disciples, bien, maintenant vous êtes tristes, mais à un moment donné, vous serez dans la joie, comme la femme qui a enfanté, qui ne se souvient plus des douleurs. Hein. Et puis, vous avez aussi ce très beau passage dans l'Apocalypse, dont on a déjà parlé, je crois, au début de la neuvaine, hein, où il nous est donné de voir cette femme qui enfante. Alors, cet enfantement, vous pouvez dire, mais ça concerne simplement les mères de famille. Comme hier, j'ai parlé du couple. Alors vous allez me dire, mais vous parlez vraiment du couple, de la famille. Pas que. Quand j'ai parlé hier de la relation homme-femme, il me semble que ça concerne toute personne, quel que soit son état de vie. Nous sommes amenés à faire grandir les relations de communion, à nous ouvrir à l'autre comme un don, puisque ce sont ces relations de communion qu'on va vivre au ciel. Donc en fait, on s'y prépare et on est déjà bénéficiaire de cette grâce. Pour ce qui est de l'enfantement, la question de fond, c'est comment on choisit la vie plus profonde que la souffrance et que la douleur. Nous croyons en un Christ qui est ressuscité, donc qui a vaincu la mort. Et donc, cette foi, ce baptême dont on vit, nous donne de découvrir à chaque instant que la vie est plus profonde que la mort, que le bien est plus profond que le mal. Et à chaque fois que je fais ce choix de la vie plus profonde que la mort, du bien plus profond que le mal, eh bien, j'entre dans ce travail d'enfantement. Je fais grandir le bien, je fais grandir la vie. Donc, tous les états de vie, quelle que soit votre vocation, vous êtes invité à vivre de votre baptême, de ce salut de Dieu qui est déjà présent dès après le péché. C'est assez étonnant. Alors ensuite, c'est le dernier point que je vais aborder avec vous. Vous savez qu'il y a la question de la convoitise. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui, il dominera sur toi. Alors évidemment, quand on a perdu le sens de l'altérité comme lieu où j'accède à qui je suis, il y a un moment donné où je vais idolâtrer celui qui est autre. Et donc, il y a une vraie tentation de la part de la femme de vouloir prendre la place de l'homme, en fait. Je pense que c'est une tentation qui peut parfois exister aussi dans nos sociétés, qui parfois peut exister dans notre Église, et parce qu'elle a du mal à trouver sa place, c'est ce qu'on dit, la place des femmes. Ça, c'est le grand thème actuel, la place des femmes dans l'Église, la place des femmes dans la société. La question, elle n'est pas là. La question, je crois, plus profonde que celle de la place, c'est comment est-ce que la femme est femme? Comment est-ce qu'elle retrouve ce don originel que Dieu lui a fait et qui lui donne d'être pleinement elle-même? Elle n'a pas à vouloir ressembler à l'autre. En fait, elle a à être elle-même, et c'est en étant elle-même qu'elle permettra à l'homme d'être homme, à l'enfant d'être enfant, à l'autre d'être autre, en fait. Et donc ce n'est pas dans une relation de convoitise, ça veut dire de prendre la place, mais plutôt dans une relation qu'on a appelée, lors de notre première rencontre, de communion. L'autre, je me réjouis qu'il soit autre, et à travers son altérité, bien je rends grâce à mon Créateur qui me donne d'être moi-même. Donc c'est vraiment dans ces relations de communion qu'on devient de plus en plus homme, de plus en plus femme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de littérature, vous savez, qui essaie de dire ce que veut dire être homme, qui essaie de dire ce que veut dire être femme. Mais je me dis, mais au fond, si on est en vérité dans nos relations, la question n'est pas que veut dire être homme, que veut dire être femme. La question de fond, c'est comment est-ce que, en tout cas pour ma part, comment est-ce que je suis Laetitia? Comment est-ce que je vis de mon baptême? Et en vivant de mon baptême, je serai pleinement la femme que je dois être. Pour dire les choses autrement, on n'accède pas à notre féminité, à notre masculinité en se regardant dans le miroir, en essayant de trouver quelles sont les caractéristiques auxquelles on doit correspondre. Non, c'est pas du tout de cet ordre-là. En fait, comme et la masculinité et la féminité sont de l'ordre du mystère, c'est quelque chose qu'on a sans cesse à recevoir dans notre relation à Dieu et dans notre relation à l'autre. Et donc c'est là aussi où en Saint Jean, après le « Voici l'homme », on verra apparaître la femme. Lorsque Jésus, à la croix, appellera sa mère « femme », alors il l'a déjà fait un peu avant, au début de l'évangile, à Cana, « femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi ?» En général, c'est traduit « femme, que me veux-tu ?» Le regard de Jésus n'est pas du tout dénigrant par rapport à sa mère. Il reconnaît fondamentalement la femme qu'elle est. La femme qu'elle est. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et donc du coup demain, on continuera à méditer sur ce mystère de l'Immaculée Conception à la lumière d'autres textes de l'Écriture. Bonne Eucharistie.